Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de ce nouveau numéro du débat politique de Radio Ndikiluka. Nous poursuivons dans la même lancée de la campagne référendaire le débat politique de ce premier média centrafricain. Le projet du changement de la constitution république centrafricaine continue de faire couler de l'encre et de salive dans le pays. Ce processus ne dégage pas de consensus. Certains estiment que la constitution actuelle ne répond pas aux exigences de l'ère, tandis que d'autres pensent que le projet déjà dévoilé le 10 de ce mois renforce seulement le pouvoir du président de la République et ses proches, ou du moins veut seulement créer un régime policier dans un État démocratique. Pour en parler, nous avons deux personnalités ici sur le plateau. Monsieur Muammar Benguebossin, bonjour et bienvenue dans ce débat politique.
Bonjour.
Voilà, premier secrétaire du Fonds populaire Zokwezo, politologue centrafricain, écrivain, éditeur, et Aristide Briand-Reboise, ministre de la Jeunesse et des Sports, écrivain et président du Parti chrétien-démocrate. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs de Ndekeluka.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Voilà, nous ouvrons le bal avec vous, Monsieur Benguebossin. Vous étiez l'un des artisans de ce projet de la nouvelle constitution. Vous avez soutenu cette idée des partisans du pouvoir. Mais au lendemain de la publication du libellé, vous avez basculé pour le non. Qu'est-ce qui justifie ce revirement de dernière minute?
Question pertinente, je vous remercie. En 2021, la RC a été en crise parce que certains hommes politiques ont cru devoir faire un coup d'État le 13 janvier. Et le pays a connu une sorte de bain de sang. Et je n'ai pas manqué, comme toujours, de saisir le président de la République par texto. Et le 6 mars 2021, je l'ai convaincu qu'il fallait accepter d'aller au dialogue. L'Angola ici, l'Angola n'a pas reçu. Et donc le 6 mars, je lui ai envoyé un SMS pour dire il faut ce dialogue, il faut qu'il soit inclusif, il faut réconcilier la classe politique centrafricaine contre les ennemis de la patrie. Et il faut organiser au cours de ce dialogue l'adoption de la dénonciation des dictats de néocolonisation qu'on appelle l'accord de coopération et à l'issue de ce dialogue adopter une nouvelle constitution. Le lendemain 7 mars, le président de la République a dû en informer ses proches, notamment le ministre Ngwandjika, qui a réagi violemment sur Internet le 8 mars 2021 en s'en prenant à moi. Le président a maintenu sa position puisque le 18 mars, à ma grande surprise, le président a annoncé qu'il acceptait d'organiser le dialogue le 18 mars 2021. Et le dialogue s'est tenu début 2022 et à l'issue de ce dialogue, il y a deux problèmes intéressants qui ont été soulevés. La clarification de l'affaire de la déportation du président Boganda. Je n'étais pas à ce dialogue-là. Et surtout, l'adoption d'une nouvelle constitution. Quand cela a été décidé, le président de la République a mis en place, vous le savez, un comité pour rédiger la constitution, etc. Et on nous a fait du juridisme. On a soulevé des problèmes juridiques, on en a fait un problème de droit que le président de la République ne pouvait pas changer de constitution. Je suis politologue de formation, je suis juriste. J'ai rappelé que partout dans le monde, on change de constitution. L'URSS, aujourd'hui Russie, a changé de constitution en 1977. Même ici en Centrafrique, ça fait jurisprudence. Le président Patassé a été démocratiquement élu. Ça ne l'a pas empêché de changer de constitution. Ça n'avait pas posé de problème de droit. Donc on a balayé d'un revers de main ce juridisme-là. Pour la simple raison que la constitution en vigueur en Centrafrique a été imposée par la SILECA, derrière laquelle se trouve une puissance étrangère que tout le monde connaît. Donc, cette constitution, de notre point de vue, n'est pas adaptée à nos réalités. J'avais dit dans mes messages au président, et si vous réécoutez le message, le discours du président le 18 mars 2021, quand il a décidé d'organiser le dialogue, il parlait de sociologues, d'anthropologues, de politologues, etc., qu'il a cité, il faisait allusion à mes messages. Donc, il faut mettre en place une nouvelle constitution qui est conforme aux réalités de l'RC, une constitution qui va asseoir une vraie démocratie.
Et ça, c'est votre volonté au départ. Et après, aujourd'hui, vous avez changé de position.
Et donc, même quand la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, que nous maintenant, nous disons, c'est une décision scélérate, manipulée de l'extérieur, parce qu'il y a un aspect géopolitique. L'extérieur pense que si cette constitution est maintenue, le président Touadéra ne pourra pas être candidat. Le candidat que le MCU va présenter va se faire battre et c'est un candidat pro-français qui va arriver au pouvoir et qui aura pour objectif de faire partir l'armée russe. Et on sait
si l'armée russe, on sait ce qu'on va vivre comme depuis 1960. Et nous, on a dit, pas question. Donc nous, on n'est pas contre le fait que le président Todera veut rester au pouvoir. Mais nous lui avons dit, faisons une constitution qui va assurer une vraie démocratie. On a proposé le bipartisme, le régime parlementaire classique. Les politologues occidentaux reconnaissent tous que la démocratie n'est viable que dans les pays riches ou les pays développés. Mais ils reconnaissent que l'Inde est l'exception qui confirme ce principe-là. L'Inde est un pays pauvre et sous-développé, mais l'Inde a adopté la démocratie, le système parlementaire classique. L'Inde n'a jamais connu de dictature, l'Inde n'a jamais connu de coup d'État. C'est la constitution la plus longue, la plus détaillée, celle de l'Inde, et nous avons proposé que ce choix soit adopté. Et nous avons constaté, avec regret, que le président de la République a décidé de maintenir le régime présidentialiste qu'on a connu depuis 1962. Tous les changements de constitution qu'on a connus, c'est qu'avec Kolingba, avec Dako, avec Patassé, avec le président Bozizé, c'est toujours le régime présidentialiste, c'est-à-dire un régime qui concentre les pouvoirs dans les mains de l'État. Et les derniers progrès démocratiques qu'on a eus, c'est quoi? C'est que quand il faut signer un décret, le ministre de tutelle, il étudie le dossier avec son cabinet, il signe le décret. Ça remonte au ministre du Premier ministre, qui est quand même le chef du gouvernement. Il ne va pas faire de la figuration. Il étudie le dossier. Si le dossier est correct, il signe. Et le chef de l'État entérine à la fin en apposant.
On y revient. On y revient. Donc, nous,
ça,
on veut,
ça a été balayé d'un revers de main.
Et c'est tout cela qui vous a poussé.
Et la deuxième chose, c'est qu'on est passé de 5 ans à 7 ans renouvelable une fois, on nous a dit. Mais finalement, il se trouve que c'est indéfiniment renouvelable. Tout ça ne nous gêne pas. Parce que même en France, le mandat n'est pas limité. Je l'ai toujours dit. Aux États-Unis, c'est limité. Le président peut faire 7 ans, on peut renouveler indéfiniment parce que nous disons qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Comme Mandela, comme Kadhafi, s'ils doivent rester 50 ans au pouvoir, ça ne nous gêne pas. Notre problème, c'est d'avoir une vraie démocratie et d'avoir une politique économique et sociale qui sert réellement les intérêts du peuple parce qu'on a 92% de taux de chômage. Toutes nos propositions économiques, le président n'a pas accepté, ne les a pas acceptées. Il n'a pas accepté d'en débattre avec nous ou d'en débattre avec l'ensemble de la classe politique comme on lui a proposé. Même les gens du BRDC qui ont tué ce pays avec la CELECA. Nous pensons qu'il faut débattre avec eux. Il n'y a pas eu de débat et la constitution, le décret convoquant le corps électoral a été promulgué sans que cette constitution soit annexée à ce décret. Alors que la loi votée par la majorité qui est au pouvoir est claire là-dessus.
Et donc pour vous, c'est tout ce qui vous a motivé de vous retirer
absolument, de
ce processus. On y revient. Monsieur Ribois, en tant qu'un des rédacteurs de cette nouvelle constitution, vous acceptez de débattre parce que je vous vois participer aussi avec Monsieur Benguebossin et défendre votre projet. Quelles sont vos motivations d'abord, avant de rentrer dans le vif du débat?
Je pense que c'est un processus effectivement qui émane de la jeunesse, qui avait exprimé ses préoccupations. On était en 2018 quand à la mairie du 7e arrondissement, les jeunes ont organisé une réunion sur la réflexion, sur le dialogue, de réflexion sur le dialogue, et c'était une jeune fille en sociologie, elle était en maîtrise, qui m'a posé la question. Nous avons parlé, et on s'est tombé d'accord sur l'article 36 de la défunte constitution qui, effectivement.
Bon, de l'actuelle constitution, parce qu'on n'a pas encore. On ne l'a pas encore remplacé.
Le processus est enclenché.
Donc, ça veut dire que vous avez. Ça veut dire que vous avez une ferme conviction que le oui va remporter.
Mais bien sûr.
Et donc, vous donnez la raison à l'opposition qui dit que c'est un scénario, tout est préparé, tout est bon.
Non, le problème, c'est pas ça. Quand tu vas en guerre, tu vas pour gagner, tu ne vas pas pour perdre. Autant rester à la maison. OK? Donc, je vous exprime ma conviction. Et ce n'est pas partagé.
Ce n'est pas une trahison.
Non, ce n'est pas une trahison. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a plus de raisons qui nous amènent vers le oui. Et si vous me laissez...
Non, c'est juste pour rappeler, parce que vous avez qualifié la constitution genèse actuelle d'une constitution déjà morte. Vous continuez, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, à ce moment, on a dit, mais attends, un jeune de 35 ans qui ne peut qu'avoir le pouvoir que par le réflexe des armes... on lui donne une possibilité aujourd'hui de s'exprimer par la voie démocratique. Pour moi, en tant que ministre en charge de l'éducation civique, c'est une bonne chose parce que si jamais quelqu'un emprunte la voie démocratique, cela l'obligerait à s'amender. Parce que pour aller dans ce cursus, j'ai déposé un dossier. Il y a des candidats qui ont été invalidés pour cause de mauvaise pratique, moralité, etc. Donc ça nous permet de gagner deux fois. Maintenant, je suis surpris effectivement, puisque nous allons revenir sur beaucoup d'autres raisons que je trouve révolutionnaires. D'abord, l'article 36 et encore d'autres articles que je pourrais citer tout à l'heure. Mais quand j'entends Bengo Bossin, j'ai bien compris tout ce qu'il a dit. Mais je n'arrive pas à trouver effectivement la raison qui pourrait l'obliger à changer d'avis. Parce qu'en fait, c'est un combat de souverainisme. Et dans cette constitution, il y a tellement des attributs de la souveraineté.
Lesquels, par exemple ?
Il y a tellement des attributs de la souveraineté.
Donnez-nous trois, les auditeurs nous écoutent.
Non, je peux
les Centrafricains sont à Bangassou, à Boire, à Bambari. Il faut donner deux éléments pour nous convaincre.
Non, je peux vous donner deux, trois ou quatre éléments.
On y revient. Oui,
voilà, on y revient. Donc, on est juste à l'introduction. Vous allez être servi. Et donc, tout simplement, même la Constitution, le fait d'être imposée comme il a décrit, mérite d'être réécrit. Nous avons une Constitution qui nous a été imposée par les contingences historiques. Il vient même de souligner. Alors, c'est quand même important. Prendre l'exemple, la rédaction de Constitution ne devrait jamais nous pousser à copier un modèle. Il n'y a pas un modèle classique de la Constitution parce que il y a l'histoire et la géographie de chaque pays, de chaque peuple.
Tous les constitutionnalistes et tous les politologues vont vous dire qu'il y a 4 ou 5 régimes politiques il y a des variétés propres à chaque pays, mais il n'y a que 4 ou 5 régimes.
Là, aujourd'hui, on est en train de parler de recrutement. Il y a des pays comme l'Angleterre où la constitution n'est pas écrite. Mais
c'est un régime parlementaire classique,
qui renforce le pouvoir du Premier ministre.
C'est un régime parlementaire classique.
Donc, effectivement, nous n'avons pas, pour être souverain, il faudrait développer une réflexion autonome qui tient en compte de nos cultures, de nos valeurs, de nos manières, effectivement, de vivre. Donc, tout ça, là, devrait influer la Constitution. Puisque vous avez changé d'avis, effectivement, moi, la raison effectivement qui vous pousse aujourd'hui à changer d'avis, je n'ai pas encore compris.
Je vous l'ai dit, le président a gardé le régime présidentialiste.
Non, on y revient parce qu'il y a
Il y a aussi une chose. Il ne faut pas mélanger le débat. Le président est politicien. Vous êtes anthropologue. Vous êtes politologue. Il y a un temps pour tout. Le devoir de l'histoire lié à la disparition de notre illustre bien-aimé Boganda devrait être poursuivi par les historiens. Parce que la politique ne peut pas forcément s'impliquer dedans. Mais les historiens doivent aller jusqu'au bout.
Non, nous parlons de la Constitution. Du fait que le président de la République a maintenu le régime présidentialiste qui est une dictature qui ne dit pas son nom.
Oui, mais partout en Afrique francophone. Dans le projet de la nouvelle Constitution, des voix ne cessent de dénoncer la suppression de contre-saints qui existe dans la Constitution actuelle, la Constitution du 30 mars 2016. Pour vous, M. Bengo Bossin, c'est un risque énorme d'ouvrir un boulevard au président de la République, de faire de la République centrafricaine ce qu'il veut. Comment ?
C'est-à-dire que quand nous critiquons le président Touadéra, il y a beaucoup de gens qui ne nous comprennent pas. Nous ne cessons de dire que depuis 1960, c'est le régime politique qui est, que je pourrais mieux noter que tous les autres en termes de géopolitique et de géostratégie. C'est ce régime-là qui a essayé, tant bien que mal, de sortir la RCA des griffes du néocolonialisme. Quand Touadéra était arrivé au pouvoir, la RCA était dans le chaos. Le pays était contrôlé à 90% par des mercenaires, par des rébellions à Bangui, pareil. Maintenant, il a, d'une certaine manière, réduit le taux d'insécurité. Nous reconnaissons ça. Seulement, nous disons, les gens ne le supportent pas qu'on le dise. Le président a lamentablement échoué sur le plan économique. Quand il est arrivé au pouvoir, la première fois qu'il m'a reçu à sa résidence, j'étais accompagné de notre chef de cabinet qui a eu une réunion et qui était avec moi, M. Mangoulbao. Je lui ai remis un document de 30 pages pour dire ce qu'il faudrait, ce qu'il conviendrait de faire. J'ai dit, monsieur le président, s'il n'est pas d'accord avec moi, consultez les profs de Gbagbo, professeurs d'économie, notamment Nicolas Agbogbo, que le conseil économique social a invité ici récemment. Il y a Mamadou Koulibaly, professeur d'économie, qui fut ministre des Finances de Gbagbo. J'ai dit, président, dites à vos ministres et à vos conseillers, quand ils passent par Paris, de vous acheter les deux meilleurs livres de Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz est professeur d'économie à Harvard, la Sorbonne américaine. Prix Nobel d'économie en 2001. Conseiller économique en chef des 12 conseillers économiques du président Clinton. Vice-président de la Banque mondiale qui a démissionné avec fracas pour critiquer ce que le FMI fait dans nos pays du tiers-monde. Ce monsieur n'est pas un Nord-Américain, ce n'est pas un Cubain, ce n'est pas un pour Lumumba ou un pour Kadhafi, c'est un Américain blanc. Donc, il ne supporte pas ce que le FMI fait dans nos pays en aggravant la pauvreté. Donc, quand c'est, je cite Samir Amin, on va dire que c'est un Africain, c'est un révolutionnaire. Je cite un Zimbabwe, un proche de Babo, mais là, c'est un Américain. Il en a marre de ce que le FMI fait dans ce pays. Le président m'a accepté de me recevoir au téléphone le 25 octobre 2021. Je me suis présenté le lendemain au rendez-vous, avec ce livre-là. Et mon livre sur l'économie de la RCA et les abus du FMI, le président m'a préçu parce qu'un de ses proches qui était venu échanger avec lui dire « Mais ce monsieur, il est l'ami de Bozizé, il est l'ami de Mekassa. » Mais quand le président était au pouvoir avec Bozizé et Mekassa, j'étais dans l'opposition, j'ai été deux fois leur prisonnier. Mais nous sommes des vieux militants du FPPT, derrière professeur Ngumba, l'héritier politique de Bouddha. Nous ne sommes pas contre un régime, nous ne sommes pas contre un homme politique. Vous voyez, le problème, c'est que le président Touadéra refait la même politique économique que Kolingba, que Patassé, que le président Bozizé. Et on ne peut pas sortir de l'ornière. La politique du FMI, c'est quoi? Le plan d'ajustement structurel, qui est une politique d'austérité. N'importe quel étudiant sérieux, compétent, qui n'a qu'une licence d'économie ou un jeune qui fait ne fût-ce qu'une licence de Sciences Po va vous démontrer qu'avec le plan d'ajustement structurel, on ne peut pas sortir de la pauvreté. Donc nous avons fait des propositions au président de la République avec des statistiques, avec des chiffres. Vous prenez tous les régimes qui passent en Centrafrique. Quand on vous nomme Zigelo, Dologue, les premiers ministres, ils viennent à l'Assemblée et disent quoi? Je vais redynamiser l'économie, je vais renforcer le secteur des mines, c'est des vœux pieux, on ne s'en sort pas. Il faut dire que nous allons faire tel investissement de tel montant, avec tel moyen, dans tel secteur. L'effet sur l'économie, c'est tel taux de croissance. Et l'effet pour l'État, c'est que le budget risque de lutter.
Nous revenons sur le contresens.
Le président ne le fait pas. Il a fait l'essentiel en matière de sécurité. Il est excellent en termes de géopolitique, de géostratégie. Mais sur le plan économique, ça ne va pas. Nous avons un taux de chômage de 92%.
Vous l'avez répété. Mais lorsque vous dites que lorsque vous dites que la suppression dans ce projet actuel de la nouvelle constitution de contresens du président de la République,
ça va conduire à des abus.
Pourquoi?
Je suis président de la République. Que je sois de bonne foi. Si je suis chez moi à Boali ou à Damara, par exemple, il y a des hommes d'affaires qui peuvent venir me voir en dehors du gouvernement. Ils vont me convaincre de leur donner l'autorisation d'exploiter le bois ou le diamant. C'est arrivé dans ce pays, dans les régimes précédents. Et le président signe. Vous allez écouter à la radio le conseil des ministres entendu. Parfois, un nombre de gens vous dit le conseil des ministres entendu. Ça n'est jamais passé en conseil des ministres. Le ministre concerné est surpris. Je vous donne un exemple qui ne concerne pas le président Touadéra. Je vous dis, c'est des choses qui se faisaient et qui vont continuer à se faire avec cette constitution-là, avec cette suppression. Désiré Brié était Premier ministre. Vous savez que Désiré Brié, ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un socialiste, mais un homme politique sérieux que tout le monde respecte. Il ne trempe pas dans la corruption. Il était Premier ministre du président Patassé. Le président Patassé va nommer un homme d'affaires nigérian qui vit aux États-Unis. J'ai oublié son nom, ça va me revenir. Il le nomme ministre délégué aux affaires étrangères. Bertin Béa était au gouvernement. Je venais de rentrer de France. Bézère Béa dit au président Patassé, malgré tous les respects que je vous dois, ou c'est mon gouvernement, ou c'est pas mon gouvernement. Ce monsieur, il ne peut pas siéger en conseil des ministres. Ce monsieur n'a pas siégé. Demandez tous les ministres de l'époque du président Patassé, ils vont vous le dire. Et c'est ainsi qu'on a des autorisations d'exploitation spéciale de diamants à tel ou tel homme d'affaires véreux. Vous allez écouter à la radio le conseil des ministres entendu, ou d'exploitation de bois, de forêt, ce n'est jamais passé.
Et donc, pour vous, c'est un danger qui guette le pays à travers ce projet de la nouvelle constitution, lorsque le contresens est supprimé.
Depuis août, je dis, président, on va faire taire les Tianga et consorts. On a le droit de changer, vous avez le droit de changer de constitution. Organisons des débats radio. On doit changer de constitution. Pourquoi le président n'a pas voulu de débat, ni sur la constitution, la réforme de la constitution, ni sur les propositions de réforme économique qu'on lui a faites? Pourquoi le président ne veut pas de débat? Je ne peux pas être professeur d'université, être président de la République et ne pas accepter tous les trois mois, six mois de faire des débats avec des hommes politiques, avec des professeurs d'université ou avec des étudiants. C'est que le président, avec son entourage, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Et je veux conclure sur ce point en disant ceci. Ce combat, on l'a mené contre Dako, on l'a mené contre Kolingba, on l'a mené contre le président Patassé. À chaque fois, on nous insultait, on nous disait que nous sommes des jaloux, on ne comprend rien, on est méchants. Mais aujourd'hui, qui peut vous dire que le président Dako, le président Kolingba, le président Patassé sont de grands présidents à l'instar de Mandela ou de Kadhafi ou de Lumumba? Personne. Donc, ils se sont rendus compte à la fin qu'ils ont été trompés. Quand le président Patassé est revenu, il a fait devant son conseil politique. Aristide Soukambé était son conseiller juridique, il peut vous le confirmer. Mais le président Patassé était tout le temps en pleurs. En réunion politique, il pleure. En réunion de prière, il pleure. Pourquoi? Parce que le président était amer. Il s'est rendu compte qu'il a été dupé. Son entourage l'a trompé. Et il y en a qui ont fait pire. Ils ont tous attenté à sa vie privée. Quand il m'a dit ça devant ma femme, je me suis levé pour sortir. Hé, hey, Kirgué, reviens. Viens écouter ce que les Centrafricains font.
Voilà, vous avez dit, c'est votre point de vue. Et donc, c'est ça, hein, le point de divergence entre M. Bengo-Boissin et vous, au niveau du gouvernement. M. Rebois, vous pouvez nous dire, et qu'est-ce qui a motivé hein, les rédacteurs de ce projet qui a conduit à la suppression de la question de contre-saint?
Vous savez, nous avons hérité les contre-saints de la transition. Je considère comme une situation constitutionnelle anormale qui ne devrait avoir vocation à disparaître, à durer. Et donc, il y a deux problèmes que je voudrais souligner par rapport à ça. Et en passant, je rends hommage à un de mes amis et grand frère, un grand compagnon, qui n'est plus avec nous, Claude Linga, qui a été effectivement victime de ce système de contre-saint. Il avait fait son mouvement à l'époque de transition. Il a fait son mouvement en tant que ministre de l'Éducation. Et quand il a envoyé le mouvement, ça a circulé. Et à la fin, il se retrouve que tous ceux dont il a proposé n'ont pas été retenus. Et tout de suite, il m'a dit, c'est une mauvaise idée, le contre-saint. Pourquoi? Parce que il était ministre, donc il m'a expliqué la limite de ce contre-saint. Il n'est pas là, je ne veux pas ouvrir un débat. C'est ça. Deuxième chose, je pense que ça porte au moins atteinte au pouvoir discrétionnel du chef d'État. C'est quand même important. Nommer quelqu'un, j'ai eu dans ma famille beaucoup de personnalités. Vous avez cité les Pézéras, les Charles Venezuy, etc., etc. Mais effectivement, à la maison, nous entendons. Il y a un débat au Conseil des ministres qui fera de tel tonton directeur général des affaires politiques. Ça, j'étais petit. C'était question de, quand la personne était encore en France, quand il était revenu, Charles est revenu. Le débat était au Conseil des ministres. Il y avait une enquête de moralité. Et à la fin, le travail était fait. L'enquête de moralité a confirmé. Et on a nommé la personne débattue au Conseil des ministres. Vous voyez? Donc, ça permet de comprendre que la situation actuelle, nous vivons dans une situation exceptionnelle. Depuis les crises militaro-politiques, la rigueur en matière, par exemple, de nomination, il y a des procédures qu'il faudrait se passer. Il y a des procédures, l'enquête de moralité, souvent, on fait fi de ça. Mais ramener, effectivement, supprimer les contre-saints, pour moi, je vois plutôt un avantage qu'un inconvénient, pour les deux raisons que je vous ai expliquer. Maintenant, les débats de personnes, je ne suis pas dedans. Vous savez, le contenu effectivement de cette constitution avec les innovations, par exemple relatives à la promotion de droits collectifs, liberté, etc., dépasse même le président, dépasse les régimes, dépasse, comment on appelle ça, une vision politique. Je pense que c'est une forme de bouclier que le président de la République et le peuple centrafricain donnera au pays. Pourquoi? Parce que il y a tellement de sujets, par exemple, dans le domaine de la gestion de nos ressources, c'est capital. Monsieur Bengo-Boissin le sait que très bien que, à un moment donné, même avoir accès à nos ressources, il faudrait qu'on n'était pas autorisé d'une certaine
façon. Non, il faut dire les choses clairement. Il fait allusion, à juste titre, au fameux dictat qu'on appelle accord de coopération sur les matières premières stratégiques. C'est dans mon livre qui Kitenakide, c'est dans le livre de Yangongo. Quand vous voulez exploiter le pétrole, il faut faire une demande écrite au gouvernement français.
Mais oui, mais déjà,
si vous n'acceptez pas, oui, vous n'exploitez pas.
Voilà,
si vous exploitez, il y a forfaiture, on vous attaque, comme on attaque le président que, avec la CIA.
Voilà. Maintenant que tout donc, le projet, voilà, maintenant que dans que ce projet de la nouvelle constitution, tout sera ramené sous la gouverne d'un centrafricain, mais déjà si et seulement si les centrafricains n'ont pas le contrôle, et si on laisse, comme a dit M. Bengo-Boissin, tout au président de la République, c'est lui qui va nommer, vous savez, lui seul, tout et tout, ça va causer des problèmes. Et ça, c'est ce qui provoque l'inquiétude de M. Bengo-Boissin. Si on enlève contre-saint, le Premier ministre ne comprend pas, le ministre de tutelle ne va rien comprendre de ce qui va se faire, ça va causer des difficultés.
On nomme sur proposition de quelqu'un. Là, car, par exemple, si je veux faire un mouvement, c'est moi qui propose. Je fais mon enquête, je dis, voilà, telle personnalité est apte à occuper telle fonction. Et après, bon, que ça soit passé par le Premier ministre et le Président, pour moi, le temps est long. Quand on a des gens à proposer, quand on a des centrafricains capables de défendre dans tel domaine, on fait la proposition. Et le débat, au Conseil des ministres, le débat est ouvert. On parle de tout là-bas, mais c'est vrai qu'il y a quand même un secret de délibération, mais des documents, des décisions importantes sont prises au Conseil des ministres.
Mon cher frère, le ministre Robouas sait très bien qu'il est intelligent. J'ai lu un de ses livres. Il sait très bien que ce truc-là va instaurer une dictature. Je m'explique. Quand il parlait de Linga, c'est paradoxal. Ngoumba a connu ce cas. Quand Ngoumba était premier ministre de Bozizé, du président Bozizé, il a fait un projet de décret pour la composition de son cabinet. Comme il n'y avait pas de contre-saint, c'est arrivé chez le président Bozizé, son entourage l'a influencé et on nous a introduit quatre personnalités que Ngoumba ne connaissait pas. Or, s'il y a le système de contre-saint, Ngoumba fait son projet de décret en tant que premier ministre, il signe et ça remonte au président. Si le président veut modifier, il sera obligé de convoquer le premier ministre et lui dire « je ne veux pas de quatre personnes » ou bien « je voudrais que j'ai telle compétence, tu introduis dans le cabinet ». Donc on le fait par entente. Et donc Ngoumba sera obligé de refaire le décret, de signer avant que ça ne remonte chez le président. Comme il n'y avait pas de contre-saint, Ngoumba était surpris comme tout le monde d'apprendre à la radio. Il y a quatre personnes de son cabinet qui ont disparu et il y a quatre personnes qui ne connaissent pas qui arrivent. Je peux donner les noms.
Et donc ça veut dire que pour vous, donc, le président de la République peut rester là sans contrôle.
C'est une dictature.
Il peut prendre un décret, il peut signer.
Monsieur le ministre, c'est très cher frère. Le contre-saint, c'est qui? Il s'agit de contre-saint d'un ministre choisi et nommé par le président. Il s'agit d'un premier ministre
qui a fait une confiance.
Hein. Donc, il a placé une confiance. Donc, il devrait les autoriser à l'aider à éviter les erreurs. Par exemple, si on vient lui proposer de nommer quelqu'un, alors qu'il y a une enquête judiciaire sur cette personne ou cette personnalité, à un casier judiciaire qui est compromettant, c'est au ministre, ensuite au premier ministre, de verrouiller pour que le président ne signe pas n'importe quoi. Ce système-là ouvre la voie à des abus. Et à la dictature.
Non,
incontestablement. Déjà, un président de la République, il a parlé de l'Angleterre tout à l'heure. Je parlais de l'Inde. L'Inde est un régime parlementaire classique, comme en Israël, comme en Italie, comme en Grande-Bretagne. Le contre-saint protège. Parce que si le cabinet du président, vous savez, les personnes de moralité douteuse, on en trouve partout dans le monde. Il se peut qu'il y ait à la présidence des conseillers qui sont véreux. Ils vont vouloir tromper le président. Mais comme les décrets passent par le cabinet du ministre compétent, qui vérifie, qui signe. Ça arrive au cabinet du Premier ministre. Qui vérifie, qui signe, ça va contrecarrer les plans mafieux d'un éventuel entourage corrompu du président. Et reconnaissant que quand le président ne peut pas faire confiance au contre-saint de ses propres ministres et de son chef de gouvernement.
Il y a un problème. Ou bien, selon vous, donc il y a une volonté de ramener tout sur le président et on renforce seulement dans ce projet de la nouvelle constitution ce que vous avez dit, le pouvoir du président de la République.
Il revient au régime présidentialiste.
Voilà. Et présidentialiste, selon vous, ça ouvre la voie à la dictature.
Pas selon moi. Vous demandez n'importe quel constitutionnaliste, n'importe quel politologue, ils vont vous dire un régime présidentiel, présidentialiste, c'est la déviation du régime semi-présidentiel qu'on a en France. Avec ceci de particulier que chez nous en Afrique, les pouvoirs du président sont renforcés. Et le contre-saint vient réduire les pouvoirs du président. Les constitutionnalistes et les sociologues savent que ça remonte à 1215. L'acte de Jean Santerre, le roi était tout puissant en Angleterre. Progressivement, les gens se sont battus pour réduire ses pouvoirs. Et le président vient sauter tout ça parce qu'il veut être libre de faire ce qu'il veut.
Voilà, monsieur, vous voyez, c'est le point de divergence entre vous et monsieur Bengo-Boussin. Pourquoi supprimer le contre-saint? Parce qu'on veut renforcer le pouvoir du président de la République et d'office, ça lui ouvre la voie à tout faire et c'est de la dictature.
Non, je m'inscris en faux. Je vais vous dire
parce que j'ai dit, hein.
S'il vous plaît, avez beaucoup de minutes sur monsieur Rebois.
Laissez-moi parler quand même. Allez-y. Non, je pense que monsieur Bengo-Boussin ne dit pas la vérité sur ce point. Comprenez-moi, je vais vous expliquer. Nommer quelqu'un obéit à plusieurs schémas en termes de réflexion, de pédagogie, de procédure. Je vous dis que j'ai été acteur de nomination de beaucoup de personnalités qui m'ont jamais connu. Pour certains que j'ai connus, que j'ai convoqués dans mon bureau, avec qui on a échangé.
Ça, c'est à l'époque de François Bozizé.
Voilà, quand j'étais encore patron de la sûreté. Je vous dis comment ça se passe. Vous savez bien que...
Et ça se passait mal, comme tous les régimes précédents.
Non, je vous explique.
Avec Patassé.
Je vous explique. Ce que moi, j'ai fait. Je vous appelle, vous, M. Bengo-Boussin, venez dans mon cabinet. Voilà le critère. Ok, voilà, on parle. Il y a des gens ici à Bangui que je croise, à qui on a proposé d'être ministre, qui ont refusé.
Comme moi.
Voilà.
Je vous ai donné des dates et des noms.
Voilà, donc moi je ne vous ai jamais consulté, mais sûrement c'est le président ou quelqu'un d'autre. Donc j'appelle, je dis non, moi je ne veux pas. Voilà les critères, je ne veux pas. Et souvent la personne accepte, Et après, bon, on finit le rapport. Le rapport est donné. Et souvent, ça fait partie, objet de débat aussi, des fois, au conseil restreint ou au conseil de ministres pour des cadres qui ne sont pas ministres, directeurs généraux, etc. Ouais, c'est comme ça que ça se fait. Donc, on ne peut pas forcément, le décret, ça s'accepte ou ça se refuse. Comme vous le dites.
Quels sont les inconvénients du contre-saint? C'est ça le problème.
Non, pour moi, je ne vois pas. D'abord, il y a trop de retard et ça viole des fois le secret professionnel. Je vous explique qu'il y a des choses quand ça commence par traîner dans les ministères qu'on vous expliquait, mais le secret de confidentialité ne peut pas être préservé jusqu'à certains niveaux. Puisque la manière la plus efficace, c'est d'abord, d'avoir une documentation sur la personne, sur l'aptitude morale, intellectuelle, physique,
mais oui,
etc.
Mais je vous dis
avec
que...
les éléments d'information qui devraient seulement être des outils qui servent à la prise de décision.
Je vous dis
quand
que dans...
on a le renseignement fiable, à la fin, il n'y a pas d'inconvénient. On contacte la personne. Si la personne est d'accord, le décret est pris. Et ce que je vous dis est plus important.
Non, maintenant, on ne va pas rester sur la question de nomination, non, parce que de contre-saint, mais surtout sur les ressources naturelles de ce pays. Si aujourd'hui on dit qu'on est en train de vouloir ramener tout pour que ça devienne propre au centrafricain, mais après, si c'est le président seul qui va prendre un décret, qui va tout, comme a dit M. Bengo Bossin, il y aura de bradage en outrance des ressources naturelles, monsieur. Oui, oui, sur ce point. Avant que vous ne répreniez.
Est-ce que vous savez comment les chefs d'État travaillent? Les rôles des ministres, là, vous pensez qu'on est là, on fait rien, on croise les bras? Non. Nous sommes, comme la Bible dit, que le salut du roi est entre les mains de ses conseillers. Donc, un président a plusieurs têtes. Moi, je suis sa tête du côté des réflexions qu'on pourrait mener dans le domaine de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. Quand il y a un dossier qui concerne ce secteur, mais c'est moi qui fais remonter, même si on lui faisait parvenir, comme vous pouvez le dire, par des conseillers ou par des individus, il annote le dossier, il me demande pour compétence de traiter et de présenter le dossier au conseil des ministres. Chaque ministre est responsable de son dossier. Si un ministre vous dit qu'on m'impose tout, non, c'est faux. Ça veut dire que c'est un ministre qui ne sait rien faire. Mais un ministre est le premier technicien de son dossier, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, de l'énergie, etc.
C'est pour ça que ce ministre, premier responsable de son domaine, il doit signer le décret.
Mais non, le problème, c'est la signature, ce n'est pas ce qui est important.
Si.
Non, ce n'est pas ce qui est important. La signature.
Vous savez, je vous constate une chose. Je vous ai dit tout à l'heure.
L'avis du ministre.
Attendez.
Plus important
aucun dans le monde, les constitutionnalistes et politologues, quel que soit leur pays, leur idéologie, n'ont jamais constaté qu'un régime parlementaire classique est une dictature. Et dans tous les régimes parlementaires classiques, il y a le contre-saint. Vous ne pouvez pas me citer un seul pays au monde qui pratique le régime parlementaire classique qui soit moins avancé que la RCA, où il y a plus de corruption que la RCA. Vous en connaissez? Un régime parlementaire classique. Un pays qui pratique ce régime-là et qui est moins avancé que la RCA et qui est moins démocratique que la RCA. Ça n'existe pas.
Vous voyez,
le président a fait le choix de reculer.
Le pays, par exemple,
triste.
Comme le Rwanda.
Oui.
Le pays, par exemple, comme le Rwanda.
Le Rwanda n'est pas un régime parlementaire classique.
Il n'y a pas de contre-saint.
Je vous parle de...
Mais quand vous
parlez... Le contre-saint existe dans les pays parlementaires classiques. Ce ne sont pas des dictatures.
Mais ce n'est pas le modèle.
Le Rwanda est une démocratie.
Oui, bien sûr.
Plus que la RCA. Le Rwanda a connu l'alternance démocratique quand?
Mais le problème, c'est que
vous parlez du Sénégal ou du Rwanda.
La démocratie n'est pas seulement forcément liée à l'alternance. Le développement économique, etc., ne sont pas forcément liés à l'alternance. Il y a des pays qui n'ont pas d'alternance, qui ont une avancée.
Comme la Chine.
Aujourd'hui.
Mais la Chine est un pays communiste.
Voilà. Donc,
je cite la Chine et la Corée du Nord.
Maintenant, arrêtez de citer la Chine. Arrêtez de citer les autres pays. Aujourd'hui,
Pourquoi nous avons
une constitution avec des éléments.
Mais quel est le modèle que le gouvernement a tiré?
Mais pourquoi autres ne pouvaient pas choisir le modèle? La RCA aujourd'hui est en train de s'affranchir.
Vous voulez que les autres choisissent le modèle centrafricain?
Mais bien sûr.
Le régime présidentialiste, c'est-à-dire la dictature qui ne dit pas son nom?
Non. On n'est pas en dictature.
Vous avez parlé des ressources minières de la RCA.
Le contre-saint pour vous, M. Bongo Bossin, ça ouvre la voie, ça favorise la corruption et la roublardise même des députés au détriment du peuple. C'est ce que vous avez dit dans votre document que j'ai reçu, la copie.
Vous avez soulevé un problème tout à l'heure, c'est important.
Oui,
le problème de nos ressources.
Revenez là-dessus avant de continuer.
La majorité présidentielle veut faire croire au peuple centrafricain qu'avec cette constitution, la RCA va retrouver sa souveraineté sur nos ressources. C'est faux. Ce que nous reprochons aux gens du BRDC, qui sont pires que le pouvoir en place, hein, Nous sommes clairs là-dessus.
Non, on n'attaque pas quelqu'un ici. Vous aurez l'occasion.
Dès que
vous aurez quelqu'un, de BRD ce prochainement, vous allez lui dire. En attendant, comme vous êtes en face du pouvoir, vous pouvez.
Je veux dire quoi ? À propos du BRDC, Tchangaï est un grand avocat. Mbulimumba est un grand avocat. On peut être en désaccord avec eux, mais on a l'honnêteté de le reconnaître. Et ces juristes de haut niveau savent très bien que pour que la RCA puisse avoir retrouver sa souveraineté sur ses ressources, ce n'est pas avec une constitution. Même un étudiant de première année de droit sait ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques. Donc, les accords et traités qu'on a signés avec la France, notamment sur le franc, la monnaie et puis sur les matières premières stratégiques, ces accords-là ont une force juridique largement supérieure à celle des constitutions. Tous nos présidents qui viennent, ils font semblant de changer de constitution dans l'intérêt du pays. Non, ils ne changent pas la constitution dans l'intérêt du pays. C'est le statut du régime qui leur convient, qu'ils adoptent. Pour que nous ayons la souveraineté sur nos ressources, il faut que le gouvernement dénonce ces dictats de néocolonisation sur les matières premières stratégiques. Et Dieu sait que je l'ai proposé 2 milliards de fois au président Touadéra, soit de vive voix d'eux, chez lui à Bouira, soit par SMS, sauf par téléphone. Le président ne veut pas le faire. Vous savez, le franc CFA. C'est pire. Pour sortir du franc CFA, il faut dénoncer l'accord sur la monnaie. Les gens ne comprennent pas ce problème du franc CFA. Je vous explique en 10 secondes.
Ça ne fait pas partie de notre débat d'aujourd'hui.
Oui, mais parce qu'il nous dit que cette constitution va nous permettre de mieux contrôler nos ressources. Non, c'est faux. La constitution ne peut pas changer en quoi que ce soit. Je vous cite Tchanga et Mbulimumba, qui sont de grands avocats. Posez-leur la question. Posez à n'importe quel juriste. Les accords qu'on a signés, tout comme les traités, ont une force juridique largement supérieure à celle des constitutions. Les constitutions sont comme des sergents dans l'armée et les accords, c'est des généraux. Donc ça ne peut rien changer. C'est des histoires.
Mais oui, mais puisque vous parlez de la corruption, vous parlez aussi de la roublardise des députés au détriment du peuple.
Oui, ça, nous avons proposé au président que nous avons le droit de changer de constitution. Son initiative est bonne, mais il faut, avec ce changement, il faut asseoir une vraie démocratie. Et nous avons dit qu'il faut jeter à la poubelle le régime présidentialiste au profit du régime parlementaire classique. Nous avons dit au président, écrit, publié dans la presse, qu'il faut abandonner le régime
représentatif, c'est ce que vous avez dit.
Oui. Jeter ça à la poubelle au profit du mandat impératif. Le mandat représentatif, c'est quoi ? C'est que quand vous êtes élu député ou maire, vous arrivez là-bas, vous avez une partie du pouvoir, vous faites le contraire de ce que vous avez promis au peuple. Et on ne peut rien faire contre vous jusqu'à l'issue de votre mandat. Par contre, le mandat impératif qu'on trouve dans les pays socialistes, en URSS, à Cuba, en Chine, en Corée du Nord, quand vous faites le contraire de ce que vous avez promis au peuple, vos électeurs ont le droit de vous démettre et de mettre quelqu'un d'autre à votre place.
Avant la fin de votre mandat.
Avant la fin de votre mandat. Et le président n'a pas accepté. Donc, ils sont en train de dire aux centrafricains.
Donc, vous voulez imposer cette pensée basée sur le modèle communiste. C'est ce que vous dites.
Je vous prends au mot. Les Occidentaux, les Français en particulier, ont mis dans la tête des Africains, surtout des Africains francophones, que le communisme, c'est mauvais. Le marxisme, c'est mauvais. Vous savez qu'il y a 60 ans, quand les Mao et Chou En-Lai ont libéré leur pays de la domination japonaise, ils n'étaient pas différents de nous. En 1959, quand on déportait Buganda, vous faisiez allusion à ça, il y a eu 3 millions de morts en Chine, famine. Ils ont un parti unique, un parti communiste. Aujourd'hui, la Chine a dépassé tous les pays occidentaux. Ils rivalisent avec les États-Unis. La Corée, qui est un petit pays comme le Cameroun, dirigé par des communistes, c'est une puissance qui traite d'égal à égal avec les Américains, qui font la Corée fait même du Nord fait trembler les États-Unis. Mais regardez le Nigeria, 220 millions d'habitants, les Occidentaux malmènent le Nigeria avec Boko Haram, malmènent le Grand Congo démocratique avec le M23. Donc, n'essayez pas de faire croire aux gens que le communisme est une mauvaise chose.
C'est parce qu'on a combattu le communisme.
Vous voyez dans quel état notre pays se trouve.
À vous la parole, monsieur Ribois.
Le problème, c'est pas ça. J'ai du mal à savoir le modèle démocratique ou le modèle ou le système parlementaire que vous voulez pour la RCA. Puisque vous citez à tous azimuts des modèles, mais et vous critiquez, vous appelez même la RCA la dictature. Ce que je ne vois pas et ce que je vois, c'est autre chose. Vous avez dit que sur le plan économique, c'est catastrophique. Vous avez parlé de monnaie. Aujourd'hui, le président de la République a aussi tiré la leçon sur la question de monnaie.
Vous avez parlé de crypto-monnaie.
Oui, de crypto-monnaie, aujourd'hui, est suivie par toute la CEMAC, est considérée comme une grande avancée dans notre conquête, dans la conquête de notre souveraineté économique et monétaire. Le président de la République a hérité un pays dans une circonstance que nous savons tous. Mais il faudrait aussi commencer par le commencement. Nous avons parlé de l'économie, de droit, de liberté, etc. Tout ça, c'est des attributs de la démocratie. Mais il faudrait commencer par assainir. assainir l'environnement pour créer les conditions de développement à la fois humain, matériel et économique. Nous avons...
Et ça passe par le projet de la nouvelle constitution.
Il y a bien d'autres choses qui sont déjà passées dans l'exercice...
Quand le président est arrivé au pouvoir,
s'il vous plaît,
c'était quoi
vous...
C'était juste une question. Pour mieux vous comprendre, quand le président est arrivé au pouvoir, le taux de chômage en Centrafrique était de combien?
Non, s'il vous plaît, je viendrai là-dessus. Le président de la République a créé des conditions. Quand il était, je ne sais sur quel indicateur vous allez baser, mais le président de la République, quand il a gagné, le territoire n'était pas contrôlé à 100%. Nous savons très bien et nous ne pouvons pas revenir là-dessus.
Je l'ai dit, vous me répétez.
Non, je dis, je ne vous fais pas écrire l'histoire que vous connaissez. Donc il a pris les conditions dans des situations difficiles. Il faudrait d'abord créer les conditions de retour de l'autorité de l'État dans les arrêts pays pour que l'administration puisse fonctionner au profit de nos concitoyens. Pour ça, il avait, par un choix diplomatique,
non,
assumé...
Ça, on le reconnaît, ce qu'il a fait pour la sécurité.
Oui, je finis.
Mais nous parlons de dictature.
Non, il n'y a pas de dictature.
Il est en train d'asseoir une dictature.
Mais non, il ne peut pas asseoir une dictature, parce que lui-même, il n'est pas dictateur.
Si.
Non, il n'est pas dictateur.
Il lance l'idée d'une nouvelle constitution et il refuse d'en débattre avec...
Mais il débat, preuve en est que je débatte avec vous.
Non.
Vous pensez que
mais
la classe politique...
Ça devait se faire avant.
Non, la classe politique... Mais vous et moi, on a eu l'habitude de débattre.
Non.
Mais le débat est là.
Le débat,
nous avons eu le dialogue
qui était un
cadre de débat et d'échange.
Quel dialogue?
Mais il y a eu un dialogue ici.
Républicain.
Non, c'est à l'issue de ce dialogue que l'idée de refonte de la Constitution a été soulevée. Mais quand le président de la République a déjà décidé... Il fallait ouvrir un débat. Bon, je l'ai proposé à plusieurs reprises.
Mais le problème,
depuis le mois de
juillet.
Vous
voulez débattre avec qui?
Mais avec les Tchangaï, avec les Dologuélé, avec toute la classe politique.
Il y a eu le président de la République.
Je ne suis pas d'accord avec eux, mais il faut qu'on discute avec eux.
Bien sûr. Mais quand le président avait mis en place le concept de l'Union sacrée, moi, je n'étais pas encore ministre, je faisais mes business, j'étais entre deux avions. Mais tous ceux donc que vous avez cités, les Tchangaï, les Iguélé, les Dologuélé, se retrouvaient régulièrement à la présidence pour débattre. Après, il y a eu un temps
avant
de débat.
Le problème de constitution.
Oui, bien sûr. Bon. Mais
Monsieur Begum, vous êtes en train de parler.
Il avoue.
Depuis
que le président soulevait l'idée de constitution, il a refusé de débattre.
Vous savez que le consensus.
Même nous qui l'avons soutenu.
Le consensus n'est pas toujours dégagé. N'est pas dégagé depuis le lancement de ce projet de la nouvelle constitution.
Le dialogue qui était un cadre d'échange. Mais si les autres.
Le président a signé et promulgué le décret convoquant le référendum avant que les gens prennent connaissance du contenu de sa constitution deux semaines après.
Maintenant,
en quoi il est démocrate? Il fallait ouvrir le débat avec ce projet de constitution, qu'on en débatte, qu'il y ait même consultation à la base, à Carnot, à Ipi, à Galinga. Les gens savent ce que c'est qu'une constitution? Pourquoi veut-on changer? Quel est l'intérêt du changement? Ce débat aurait dû être fait trois mois auparavant avant que le décret ne soit signé. Consultation à la base. Même ma sœur Catherine Sanpapanza, qui a dirigé l'OCO, a accepté à un moment donné qu'on fasse des consultations à la base avant de terminer avec le forum de Bangui. Le président n'a pas voulu de ce débat parce qu'il sait que son projet est mauvais.
Non, s'il y avait débat...
Mais bien sûr...
Vous avez pris part à ce type de débat.
Vous voulez nous faire croire. Le président veut nous faire croire que c'est la jeunesse qui a demandé la révision de la Constitution. Je le dis depuis longtemps, je dis président. Dites plutôt que c'est vous, président de la République, qui estimez que cette Constitution n'est pas bonne. Il y a des arguments pour prouver que ce n'est pas une bonne constitution. Et que vous voulez. Ne dites pas que c'est la jeunesse.
Et donc, pour vous, le président de la République se cache derrière
la préoccupation des jeunes, c'est quoi? C'est le chômage. Ils n'ont pas de bourse. Le président Touadéra et moi, à l'époque, avec les Bobossi, on n'a pas connu l'école privée. Nos parents ne nous ont pas payé l'école privée. L'État nous donnait la bourse et un billet d'avion pour aller étudier en Europe. Aujourd'hui, combien d'étudiants ont la bourse? Et c'est un professeur d'université. Vous savez que les jeunes viennent avec leur CV. Je garde ça précisément. On fera. Peut-être un procès avec ça un jour. Un jeune de Bangui qui vous dit qu'il a la licence, qu'il est en master 1, il ne sait pas la différence entre c'est des choses élémentaires entre l'infinitif, le participe passé, ou un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel. EZ, c'est E accent.
Ressortissant de l'université
de Bangui. J'en ai plein. Les CV, les lettres de motivation, j'en ai plein. Ça vous donne des larmes aux yeux. Vous voyez? Donc, il faut reconnaître. Si vous ne dites pas la vérité au président, il va finir comme les autres. C'est-à-dire qu'il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Le président Touadéra avait tout pour réussir, mais il s'est mal entouré. Il s'est entouré de gens, Chevènement l'avait dit, hein. C'est difficile pour un ministre de dire la vérité au président. Il a dit, un ministre, ça se tait ou ça démissionne.
Non, faux.
Mais oui, faux. Je vous donne l'exemple de Bingaba. Bingaba, c'est un économiste qui a fait une excellente thèse de doctorat à Paris 10 Nanterre, où a étudié Teneko Izoa, qui était à la BEC, le docteur Idi Lala, le DG de l'UNAM que Bokassa a nommé, docteur en sociologie politique, ça doit être un de tes parents. C'est mon grand-père, c'est mon ami proche.
C'est mon oncle.
Voilà, c'est mon ami très proche, on allait en Libye ensemble. Bingaba était ministre du plan de Kolingba. Quand il y a eu les élections de 93, vous voyez, il y a un numéro de Africa International. Sur la première page de couverture, il y a la photo de Kolingba, de Patassé, de Ngumba, de Dako et de Lako. Ils étaient les cinq candidats. Il a donné une interview. C'est un excellent économiste. Il dit, quand vous rentrez, vous traversez la mer, vous rentrez chez vous, on vous donne des responsabilités. Vous dites au président, c'est comme si qu'on doit faire les choses. Le président ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'à l'ambassade de France, ils ont dit attention. D'abord, tout le monde sait que le mention le contrôlait. Et quand vous insistez, on dit au président, virez-le. On te vire, Afrique internationale. Et ce monsieur, il est rentré en France. Il sait qu'on ne peut pas changer le pays. Donc, le drame de nos présidents, c'est quand ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte, après, grâce aux accords, qu'ils n'ont pas la réalité du pouvoir.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de s'enrichir. Sur la question, monsieur.
C'est que Bengi Boussin a dit, c'est une logique de ceux qui ont conquis le pouvoir par le coup d'État. Le président Touadéra a été élu par le peuple. Il fait la volonté du peuple.
Mais le président, c'est pas pareil. Je peux donner des exemples.
Non, je vous, vous voulez parler combien de temps?
Non, je veux simplement dire. Je veux simplement dire que quel que soit le régime, je ne suis pas contre le président Touadéra, il le sait. C'est-à-dire, quel que soit le régime, tant qu'il y aura les accords, les dictats de néocolonisation, tant qu'on aura un régime présidentialiste, on ne fera rien de bon.
Vous l'avez évoqué, oui, allez-y.
On peut changer de président, on ne fera rien de bon.
Et donc, le président de la République a été élu. Il est conscient qu'il a été élu par la majorité, et cette majorité, heureusement, se trouve être la jeunesse. La jeunesse, c'est l'expression de la démocratie parce que c'est la loi de la majorité. Le président de la République, aujourd'hui, a recueilli beaucoup d'avis, bien avant que cette constitution soit mise en marche. Mais on ne peut pas, moi aussi j'ai donné mon avis. Beaucoup d'autres personnes, même ceux aujourd'hui qui ont critiqué, effectivement, il y en a qui ont écrit, qui ont demandé la modification. J'ai même des amis constitutionnalistes.
Comme M. Bengi Boussin qui a été avec vous, mais qui a vu que projet
pour lui,
ne... C'est qui devait...
On n'a jamais été dans la majorité. On est dans l'opposition, mais on a eu... On fait de l'opposition patriotique.
Vous avez soutenu.
Progressiste.
Voilà, vous avez soutenu le projet. J'ai des amis avec qui nous avons, depuis 2016, potassé la constitution. Avec qui on s'est dit qu'il fallait modifier la constitution pour diverses raisons. Et aujourd'hui, ses amis ont changé d'avis. Il y en a encore qui viennent de regagner le bateau. Donc, tout simplement pour vous dire que le président Touadéra n'a de cesse de créer des conditions pour le développement harmonieux de notre pays, surtout dans le secteur de la jeunesse. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses.
Ça, c'est des discours.
Okay? Non, c'est la vérité. Nous avons aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une couverture maladie. Maladie universelle. Nous sommes, les artistes aujourd'hui doivent avoir leur statut en tant que salariés. Et c'est déjà acté. Nous avons le fonds de développement de garantie qui devrait permettre, par exemple, aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de cautionnaire de contracter des dettes et créer leurs conditions de leur développement économique, etc. Il y a beaucoup de choses que nous avons faites. Mais
ça, vous l'avez déjà fait avant.
Oui, nous avons
avant
déjà
ce projet.
Fait.
Mais maintenant, ça rentre dans l'actif du président de la République de ce que le président a déjà fait, comme son projet de société.
Voilà.
Mais si le oui remporte, en quoi cette nouvelle constitution va permettre au pays de connaître un développement, comme dit le président de la République lui-même?
Je pense que s'il n'y avait rien de fait, on aurait dû, par exemple, avoir des doutes. Mais cette constitution, déjà, ça devrait nous permettre d'avoir un paratonnerre pour nous protéger et pour créer des conditions de développement harmonieux.
Comment?
Par plusieurs mesures, des innovations que je vous ai dit.
Quelles conditions?
Par exemple, lui qui nous accuse de dictature, les libertés syndicales, le droit pour les oppositions, etc. Tout ça là, la suppression de l'article 36, etc. Tout ça là, pour moi, c'est des leviers très forts. Et même la question, par exemple, liée à la problématique de nationalité, mais c'est aussi l'un des combats de nos devanciers. L'un des combats de nos devanciers. Qui avait soufflé à Dako l'idée?
C'est un sujet intéressant qu'on n'a pas abordé. La
binationalité. On n'a pas le temps, on reste sur le compte sain et le bien fondé d'ailleurs de ce projet. Qu'est-ce qui va permettre aux jeunes, que vous l'avez dit, les chômeurs, etc., les centrafricains, après ce projet de la nouvelle constitution, ces centrafricains-là vont gagner quoi dans ça? Parce que le président de la République lui-même a dit, après ce projet de la nouvelle constitution va permettre au pays de connaître le développement. Vous l'avez suivi le 10 juillet à l'Assemblée nationale, non ?
Oui, bien sûr. Le développement, déjà un, ce projet a permis déjà de créer des conditions. Des conditions de la souveraineté sur, par exemple, la gestion et la maîtrise de nos ressources. En tant que nos ressources aujourd'hui, les ressources appartiennent aux Centrafricains. Donc, la RCA...
Ça appartient à la France.
Arrêtez ces récitations.
Ce n'est pas des récitations. N'importe quel chercheur peut aller au Palais de la Renaissance, aux archives nationales, ils vont trouver les accords de coopération sur les matières premières stratégiques. On ne peut pas exploiter le pétrole ou l'uranium sans l'accord de la France.
Vous le savez, vous allez à Paris.
C'est fini comment ? C'est pas cette conscience qui va changer.
Moi, j'ai géré l'archive de la présidence. Je sais de quoi vous parlez.
Donc, on n'a pas de
d'accord. C'est vrai que tout ce que vous dites là...
Les ressources naturelles de la République africaine n'appartiennent pas aux Centrafricains, mais nous avons vu les régimes précédents ont vendu de pétrole, de Burumanta, etc.
Patassé
a été renversé pourquoi ? Pour cette histoire, Bokassa a été renversé pourquoi ? Pour l'uranium, Bozizé a été renversé pourquoi ? Pour le pétrole, la France a considéré que c'est une forfaiture, mais Bozizé vous l'a dit le 27 décembre. Ici, à la place de la République, le 27 décembre 2012.
Monsieur Bengobosé, vous avez écouté Monsieur Rebois.
Donc, quand on nous dit que le président Touadéra va nous résoudre ce problème avec cette condition, c'est faux.
Si le oui remporte, en écoutant bien d'autres, ceux qui soutiennent ce projet de la nouvelle constitution, si le oui remporte ce projet de la nouvelle constitution, va permettre au pays de connaître un développement, pour vous, vous dites c'est faux.
D'abord, le peuple ne va pas voter oui. Nous avons demandé aux Centrafricains de voter non en restant à la maison. Parce que s'ils hasardent à aller voter, ils vont truquer les résultats. C'est connu. Il faut voter non en restant à la maison, porte et fenêtre close de 8h à 17h. Deuxième chose, ils vont malgré tout dire qu'ils ont gagné. Et en quoi ça va changer la RCA ? Je vous ai dit que les régimes précédents qu'on a combattus dans les rangs du FPPT nous disaient la même chose, que nous ne sommes pas sérieux, nous sommes jaloux, on ne comprend rien, on est contre tout ça. La RCA a changé structurellement. Non, on a 92% de taux de chômage. Les pays occidentaux que nous copions ont entre 4 et 7% de taux de chômage. Il le sait, il a vécu en Europe. Et quand ça dépasse 7%, c'est un grand problème. Donc, au-delà de ce problème de chômage qu'on appelle l'emploi, il y a un problème de pouvoir d'achat. Si les gens trouvent du travail, c'est bien, mais est-ce que leur salaire leur permet de vivre décemment avec leur famille ? Et le président Touadéra n'a jamais accepté un débat sur ces thèmes. On l'a essayé en vain. On lui a dit, président, nous, on n'est pas contre. Nouvelle constitution, tu veux rester longtemps ? Nous, on est pour. On l'a publié dans la presse, tout le monde. On a donné une conférence de presse en direct sur la télévision Vision 4, le 8 octobre. On est pour. Mais, président, allons vers la démocratie parlementaire classique ou le régime d'assemblée. Deuxième chose, sur le plan économique, allons voir les Chinois qui nous donnent une avance de 10 milliards de dollars avec la caution de la Russie qui garantit que maintenant la RCA est sécurisée. Avec 10 milliards de dollars, on va créer 5 banques de développement, 5 banques d'affaires, 5 banques d'investissement. Et le rôle de ce nouveau système bancaire modernisé, c'est de créer 15 000 entreprises agricoles qui développent l'agriculture mécanisée en 5 ans et 15 000 entreprises d'élevage. Vous voyez la France, la Hollande, la Nouvelle-Zélande, c'est des grands pays d'agriculture comme les États-Unis et d'élevage. Et chaque entreprise a un capital de 250 millions et doit créer 50 emplois en 5 ans. 50 emplois multipliés par 30 000 entreprises, ça nous fait 1 500 000, monsieur Armando. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si le président ne réussissait pas à le faire en 5 ans, même si on ne crée pas 1 500 000 emplois, on crée seulement la moitié, ça ferait 750 000. Même si on arrive à faire que le quart, ça ferait 375 000 emplois, ce serait super pour ce pays. Donc la préoccupation des jeunes, ce n'est pas de dire, bon, on n'a pas de bonnes... Ça, c'est les hommes politiques, les politologues...
Et donc si on vous demande quelques minutes... On va nous couper. Donc vous avez quelques secondes pour dire, si on vous demande de qualifier ce projet de la nouvelle constitution du président de la République...
C'est une forfaiture. C'est une forfaiture qui va asseoir une dictature. Je suis musulman, je prie 5 fois par jour. Je ne suis pas contre le président Touadéra, il le sait. Je ne suis pas contre mon pays. Quand je lui donne des conseils, ce n'est pas pour parler des gens. Je lui dis des choses, je lui dis d'aller vérifier au Zimbabwe, en Côte d'Ivoire, etc. Il ne veut pas parce qu'il veut faire ce qu'il veut, instaurer une dictature.
Oui, monsieur, sur cette question, vous répondissez. Si aujourd'hui, on vous demande de qualifier parce que vous allez appeler à voter, oui, pour ce projet de la nouvelle constitution. Monsieur Rubois.
Oui, je voterai oui. Je voterai oui pour des grands progrès contenus dans cette constitution. Je voterai oui pour le refus à la rébellion répétitive. Je voterai oui pour la possibilité qu'on a donnée à la jeunesse maintenant de concourir par la voie démocratique au lieu des réflexes des armes. Je voterai oui parce qu'on me demande maintenant aujourd'hui par cette constitution de posséder mon sol et mon sous-sol. Donc je voterai oui parce que le sous-sol centrafricain appartient aux centrafricains, à la génération future. Je voterai oui parce que là, il n'y aura plus de mainmise étrangère qui faisait de telle sorte que la RCA était chasse-gardée d'autres pays. Donc, pour moi, je vois que du bonheur à voter oui. On en déplaise. C'est un débat démocratique. Le vote oui doit avoir une explication juste, comme je viens de donner. Le vote non doit avoir une explication, même s'il n'y a pas d'explication plausible. Mais le oui devrait permettre de garantir le retour de la RCA dans le
désolé,
concert.
Désolé, c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui consacré au nouveau dispositif inscrit dans le projet de la nouvelle constitution centrafricaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtre. Merci aussi à monsieur Muammar Bengueboussin, politologue, écrivain et premier secrétaire du Front populaire Zekouezo en République centrafricaine. Aussi, merci à vous, monsieur Aristide Briand-Reboise, ministre de la Jeunesse et des Sports, aussi président du Parti chrétien démocrate et membre de la direction nationale de campagne référendaire. Il me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.